Bonsoir. Amen. Alors, mon épouse et moi, nous sommes très heureux d'être avec vous ce soir. Est-ce que vous, vous êtes heureux d'être avec vous? Non, mais il y a des fois comme ça, hein, on n'est pas peut-être bien avec soi-même, mais j'espère que ce soir, oui. Amen. C'est samedi soir. Habituellement, moi, en tout cas, si je recule quelques années en arrière, samedi soir, c'est le soir où tu mettais ton plus beau costard et tu te préparais à aller danser ou à la conquête de. Mais ça a changé aujourd'hui. Samedi soir, on se rencontre pour adorer Dieu, pour entendre sa parole. Alors, je vous invite à vous lever juste quelques instants, puis tournez-vous donc vers deux, trois personnes, puis dites-là, mais je suis heureux que tu sois là ce soir. Amen. Si vous êtes heureux d'être avec vous, vous pouvez souhaiter la bienvenue à quelques personnes aussi. Amen. Moi aussi, je suis heureux que tu sois là, mon frère. Et t'as pu tremble. Amen. Sois béni. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est bon, vous pouvez vous asseoir. Combien il y en a, c'est la première fois que vous m'entendez, vous me rencontrez. Levez la main, ceux qui c'est la première fois. OK, une grande majorité, donc je vais donner un court témoignage pour que vous me situiez un peu. D'abord, vous avez remarqué, ce n'est pas un accent vaudois. Ni fribourgien, comment on dit fribourgeois? Fribourgeois. Je viens du Canada. Et le Canada est situé en Amérique du Nord. Je ne sais pas si c'est par là, mais hein, l'autre côté de l'océan Atlantique. Et le Canada n'est pas divisé en cantons, mais en provinces. Et mon épouse et moi, nous venons de la province de Québec, qui à elle seule, on m'a dit qu'elle était 50 fois plus grande que la Suisse. Juste la province de Québec. Et on n'est que 7 millions d'habitants dans cette grande province de Québec. Et nous, les Québécois, on est un peu comme Astérix et les Gaulois. Sauf qu'au lieu de résister à l'envahisseur romain, on résiste aux 280 millions d'anglophones qui nous entourent pour maintenir la belle langue française dans ce coin d'Amérique. Et vous aurez remarqué, au Québec, on parle français, mais sans accent. Ça vous fait rigoler, hein? Pourtant, vous, vous avez un accent, hein? Alléluia, un bel accent. Amen. Et il s'est produit un événement dans ma vie en 1980. Vous aurez remarqué que c'est pas l'année de ma naissance. Mais c'était l'année de ma deuxième naissance. Alors qu'un homme d'affaires de Toronto, avec qui j'étais en négociation pour obtenir l'exclusivité de son produit pour la province de Québec, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Michel, quand t'en auras assez de mener ta vie tout seul, donne-la au Seigneur Jésus-Christ. » Ce que j'ai trouvé très bizarre de sa part. Je l'ai remercié poliment. J'ai pris l'avion pour retourner au Québec d'où j'étais. Mais ça m'a interpellé. Je n'avais rien raconté de ma vie à cet homme. Mais lorsque je suis allé le rencontrer, j'étais en instance de divorce. Je venais de faire un dépôt de bilan et j'étais lié par une dépendance presque quotidienne à la cocaïne. Pendant 32 ans de ma vie, c'est l'âge que j'avais en 1980, il y avait plein de gens autour de moi pour me dire ce qui n'allait pas dans ma vie. Plein de gens pour me pointer mes déficiences, mes problèmes, mes difficultés. Mais personne pour m'offrir une solution. Mais cet homme m'a interpellé avec un défi. Que quand j'en aurais assez de mener la vie que je menais, de la donner au Seigneur Jésus-Christ. C'était à l'été de 1980. Et en novembre 1980, un soir, séparé de mon épouse, près du divorce, j'en avais assez de mener ma vie tout seul, j'ai crié au Seigneur Jésus et j'ai dit, « Si tu existes, si vraiment tu es le Fils de Dieu, prends ma vie, fais-en ce que tu veux. » J'ai dit, « Je te demande une chose, si tu es Dieu, tu es puissant, délivre-moi de la drogue. » Nous étions en novembre 1980 et c'est la dernière fois de ma vie que j'ai consommé quelque drogue que ce soit. La parole de Dieu dit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. » Et par la suite, le restant est sur le CD de mon témoignage que j'ai emmené avec moi. Alléluia! Non, mais le but de la rencontre de ce soir, c'est pas de donner tout mon témoignage, mais écoutez, quand tu donnes véritablement ta vie au Seigneur Jésus-Christ, les choses changent. Combien il y en a, vous comprenez ce que je dis ce soir? Combien il y en a, vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Ma vie a été complètement transformée. Le divorce n'a pas eu lieu. J'aimerais vous présenter celle avec qui je suis marié depuis 32 ans. C'est pas un record, mais aujourd'hui, c'est une très bonne moyenne, n'est-ce pas? Elle se prénomme France. Tu veux te lever, chérie, derrière, là-bas? Alléluia! Nous avons deux enfants qui sont au Québec. Et depuis le 2 décembre 2003, je couche avec une grand-maman. Dieu nous a fait la grâce, eh bien, d'avoir une petite fille qui s'appelle Elia, qui se prénomme Elia et qui est vraiment beaucoup de joie pour ses parents et ses grands-parents. Et malheureusement, on ne la voit pas souvent, mais alléluia. Amen. Et donc, Dieu a vraiment intervenu dans ma vie et tellement de choses sont changées que même aujourd'hui, je me tiens devant vous avec deux livres que j'ai écrits. Le premier, il s'appelle « Le combat spirituel » et le deuxième, « Renversons les forteresses ». Vous savez, le combat spirituel, je ne sais pas pour vous, et ça ne sera pas vraiment le thème des deux rencontres, quoique je ne peux pas m'empêcher de parler de combat spirituel, parce que pour moi, le combat spirituel, c'est tu entres dedans dès ta nouvelle naissance. C'est là que tu prends conscience que véritablement, tu as un adversaire, et non, ce n'est pas ton conjoint. Quelqu'un me disait hier, c'est ta France ou ta souffrance? J'ai dit, sais-tu, pendant des années, ça a été ma souffrance. J'étais convaincu, c'était tout de sa faute à elle, mes problèmes. Moi, ça allait très bien avec moi-même. C'est avec elle que j'avais des problèmes. Eh bien, non, c'est pas contre les personnes que nous avons à combattre, mais contre l'esprit derrière les personnes. Et le combat spirituel, je ne sais pas ce que ça représente pour vous lorsque vous entendez le nom combat spirituel, mais pour une majorité de gens, dès qu'on prononce ce nom, les gens s'imaginent de voir quelqu'un qui se roule par terre et qui écume et de qui nous chassons des démons à grands cris. Ça existe. C'est une réalité du combat spirituel. Mais ça ne représente que 5% du combat spirituel. 95% du combat spirituel a attrait à nos pensées et nos attitudes. Enfin, si j'avais à résumer ce que représente le combat spirituel pour moi, je le donnerais en deux volets. Le premier volet, c'est d'entrer pleinement dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix de Golgotha. Parce que Jésus a dit à la croix, « Père, tout est accompli. » C'est lui qui a détruit les œuvres du diable. C'est lui qui a vaincu l'adversaire. C'est en son nom que nous pouvons marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourrait nous nuire. Donc, il nous faut saisir complètement. Dans notre esprit, notre frère a prié ce soir que notre cerveau aussi, pas juste notre cœur, pas juste notre corps, mais que notre intelligence, notre cerveau soit renouvelé. C'est ce que Paul nous dit dans Romains 12, qu'on soit renouvelé dans notre intelligence et qu'on puisse saisir ce que Jésus-Christ est venu accomplir 2000 ans passés à la croix de Golgotha. Et le deuxième volet du combat spirituel, c'est d'entrer dans notre véritable identité d'enfant de Dieu et surtout dans tout l'héritage. On l'a chanté ce soir, héritier de Dieu. Oh, c'est facile à chanter, mais c'est quoi être un héritier de Dieu? Quel est l'héritage dont nous sommes héritiers? Et ça, c'est à nous de le découvrir. Et dans ce processus de comprendre et de saisir pleinement l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix et d'entrer dans notre pleine identité d'enfant de Dieu et dans tout notre héritage, c'est là qu'il y a un combat spirituel. Le diable ne te laissera pas faire. Le diable, c'est un squatter. Il est venu squatter la terre. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Il veut squatter tous tes biens, veut squatter tout ce qui t'appartient, veut te voler tout ce qui t'appartient. Le combat spirituel, ce n'est pas de se battre contre le diable, mais lui rappeler sa défaite. Attendez une minute, dans mes notes, c'était marqué « La foule cria Amen ». Non, mais c'est peut-être à cause de l'accent, le temps que vous traduisiez. Ils m'ont dit, Michel, parle doucement, parce que les Suisses, ils aiment réfléchir, comme disait notre bien-aimé Maurice Ray, qui est retourné auprès du Père la semaine dernière. Alléluia, pour ceux qui ne le savaient pas. Alors donc, c'est pas de se battre contre le diable. Mais nous devons lui rappeler sa défaite. Il a été vaincu. Et c'est à nous que Jésus a donné son nom. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Et Dieu nous appelle maintenant à entrer dans notre héritage. J'aimerais ce soir partager avec vous. Vous savez, j'organise différents séminaires. Je vais quand même juste vous situer un peu. C'est qu'on est établi en France depuis bientôt sept ans. Alors que Dieu nous a conduits à venir missionnaires en Europe et nous établir en France où nous avons fondé une maison de guérison pour les cœurs brisés qui s'appelle le Bon Samaritain. Et au Bon Samaritain, nous disons que Dieu peut guérir tous les cœurs brisés si nous lui donnons tous les morceaux. Alléluia. Et donc, nous avons fondé cette maison d'accueil où les gens viennent pour de l'écoute, de la prière, de la cure d'âme, de la relation d'aide biblique, de la délivrance, etc. Et donc, on est établi là depuis sept ans. Et depuis neuf ans maintenant, j'organise à tous les ans, pas très loin d'ici, en France, en Haute-Savoie, des camps d'entraînement militaire de l'armée du Seigneur des derniers temps. Elle revient bientôt. Es-tu prêt? Madame a dit à sa voisine, il a dit trop vite, j'ai pas compris. Alors, je vais répéter, lentement. J'organise des camps d'entraînement militaire de l'armée du Seigneur des derniers temps. Il revient bientôt. Es-tu prêt? Et le peuple dit oui, d'habitude. D'habitude, ils disent qu'ils sont prêts. Mais l'êtes-vous vraiment? Et ce soir, alors que c'est le neuvième camp qu'on aura du 3 au 8 juillet prochain, à Sevrier, en Haute-Savoie, nous aurons Michel Dacier de la Vigerie, qui sera avec vous à Pâques, comme oratrice pour la xème fois. Nous aurons Lisette Médici. Lève-toi, Lisette, que les gens sachent qui tu es. Alléluia. Et son mari, Jean-François. Tu te lèves, Jean-François. Amen. Yvan Roduit, j'ai une partie de mon équipe ce soir qui nous enseigne dans le domaine de l'intercession. Son épouse Lucienne, qui est à la charge de la librairie là-bas. Il y aura aussi Anna Mendes et son mari Emerson Ferrel qui seront avec nous. Docteur Célestin Kiboutou, Ginette Garcia, Werner Lehmann, Doron Laville, son épouse Mado, moi-même, etc. Donc, il y a une équipe que Dieu a mis en place depuis plusieurs années. Et pendant la louange ce soir, alors qu'on est allé prier avant la réunion, moi, j'avais préparé tout un beau message ce soir. J'ai pris des notes. J'ai même les notes là. Puis Dieu, il dit, c'est pas ça que tu vas parler ce soir. J'ai dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit ce matin? Tu m'aurais évité du... tu m'aurais évité un certain travail, comprends-tu? Mais il y a des choses comme ça, des fois, qui se passent. Et je veux plutôt, parce que, en lisant le dépliant du camp, j'ai dit, tout ton enseignement est là. Alors, je vous lis. Premier titre en haut, une armée de plus que vainqueurs. D'abord, une armée. Une armée. Dieu nous appelle à être des soldats. Et Dieu, le nom qui est le plus souvent de fois utilisé pour l'identifier dans l'Ancien Testament est l'Éternel des armées. Vous ferez une recherche, vous allez voir le nom le plus souvent de fois mentionné pour identifier Dieu dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel des armées. Une armée de plus que vainqueurs. C'est quoi un plus que vainqueur? La différence entre un vainqueur et un plus que vainqueur. Parce que ici, je dis, on est une armée de plus que vainqueur. Je vous donne un exemple. Mike Tyson monte dans le ring pour un combat de championnat du monde. Il y a un adversaire devant lui. Les deux boxeurs se sont entraînés pendant des mois pour ce combat. C'est un championnat du monde. Et là, il monte dans le ring, Tyson, puis il se bat comme un forcené. Il donne des coups, il en reçoit. Il en donne, il en reçoit, il persévère dans le combat. Et finalement, après plusieurs rounds et plusieurs coups, il met son adversaire KO. L'arbitre compte jusqu'à 10, déclare l'adversaire perdant, lève le bras de Mike Tyson, met une ceinture autour de sa taille et lui donne un chèque de 500 000 euros. Il est déclaré vainqueur. Mike Tyson arrive chez lui, il donne le chèque à sa femme. Elle est plus que vainqueur. A pas eu à s'entraîner, a pas eu à monter dans le ring, puis à bénéficier de tout le résultat. Qui est allé à la croix? Jésus-Christ. Qui a affronté les puissances des ténèbres? Qui les a vaincus? Qui les a dépouillés? Qui a détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous? Alléluia. Qui a tout accompli pour nous? Alléluia. Donc, un plus que vainqueur, c'est celui qui s'approprie la victoire de celui qui est allé combattre. Merci beaucoup, parce que c'est ça qui était marqué dans mes notes. Amen. Donc, une armée de plus que vainqueurs. 9e camp militaire. On est persévérant, hein? On lâche pas. Année après année, on organise. 9e en France. Ce sera le 5e en Belgique. J'en ai fait 3 au Québec. Et Dieu connaît la suite. Et là, j'entre dans le verset que Dieu m'a donné comme thème pour l'année. À chaque début d'année, vous savez, il y en a qui prennent des résolutions. Moi, je prends des décisions. Et je me mets à l'écoute de Dieu pour savoir, Seigneur, j'aime avoir un objectif précis devant moi. J'aime avoir quelque chose vers lequel canaliser mes énergies, canaliser mes forces, orienter, si vous voulez, mes actions dans un but précis pour atteindre quelque chose. Et à chaque début d'année, Dieu me donne un thème pour l'année et toujours spécialement orienté vers le camp. Écoutez bien le verset de cette année. Équipé pour le combat de toutes les armes de guerre et prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. Et Dieu dit, c'est ce que tu vas leur partager ce soir. Sur ce verset, équipé pour le combat. Est-ce que vous êtes équipé pour le combat? Ben, ça dépend. Peut-être, oui, que, je ne sais pas. Hein? Non. Quand tu es équipé, tu le sais. Si vous ne répondez pas, c'est que vous ne l'êtes pas. Combien il y en a ce matin, vous vous êtes équipé pour le combat spirituel? Madame, vous voulez réveiller monsieur à côté de vous? Parce que ce que je vais dire... Oui. Excusez, monsieur, de vous réveiller. Ce que je vais dire, c'est important. Bonsoir. Excusez-moi, je ne veux pas vous mettre sur la sellette. La journée a probablement été longue, fait chaud. Hein? J'avais fait ça dans une réunion. Il y a quelqu'un qui dormait. Je dis, madame, réveillez votre mari. Elle dit, venez le réveiller, c'est vous qui l'avez endormi. Je prends toujours un risque. Alléluia. Alors, combien il y en a ce matin en vous levant? Vous avez pris l'armure de Dieu et vous vous en êtes revêti. Ceux qui ont fait le camp militaire. Non, excusez, quand même. Yeah, ben, bravo pour les quelques personnes. Les autres, vous n'êtes pas équipés pour le combat. Les autres, vous êtes des tout nus spirituels. Imaginez-vous, je vous regarde ce soir, c'est bien. Vous êtes tous venus ici habillés. C'est quand même une bonne chose, n'est-ce pas? De porter des vêtements lorsqu'on rencontre du public. Vous me suivez jusque-là? Si vous étiez nus ici ce soir, vous n'auriez pas tellement d'assurance. Vous seriez honteux. Vous essayeriez de vous mettre à l'écart que personne ne vous voit. Eh bien, c'est la même chose spirituellement. Lorsqu'on n'est pas équipé pour le combat, on le subit. Dans Juges 3:2, il nous est dit que Dieu a laissé parmi son peuple des nations étrangères, afin que ceux de son peuple qui n'avaient pas connu la guerre puissent connaître et apprendre la guerre. Si tu n'apprends pas la guerre, tu devras la subir. Et malheureusement, dans le cadre de Christ, je constate, que ce soit en Amérique ou en Europe, qu'il y a beaucoup plus de prisonniers de guerre et de blessés de guerre, merci beaucoup Jean-François, que de véritables soldats de l'armée du Seigneur Jésus-Christ. Laissez faire le veston, regardez ici. Là. Il y a beaucoup plus de prisonniers de guerre et de blessés de guerre que de véritables soldats. Si tu n'apprends pas la guerre, tu vas la subir. Et malheureusement, on voit une majorité de chrétiens qui subissent continuellement. Le but du camp, c'est que tu passes de poursuivi à poursuivant. Merci beaucoup, Yvan. Mais dans mes notes, c'était marqué « Yvan et toute la foule cria Amen. » Amen. Mais c'est ça. Passer de poursuivi à poursuivant. Que quand tu te lèves le matin, c'est le diable qui attrape un mal de tête et pas toi. Parce qu'il a été vaincu. Et c'est toi qui as l'autorité. Donc, équipé pour le combat. Pour le combat? Comment ça? Il y a un combat? Quelqu'un disait concernant le corps de Christ, il dit 80% des gens ne savent même pas qu'il y a un combat spirituel. Il y a 15% qui le savent, mais ils ne sont que spectateurs. Et tu n'as que 5% qui est engagé dans l'armée. Parce que c'est une armée volontaire. C'est pas comme l'armée suisse. Hier, on était invités chez des amis et leur fils nous annonçait qu'il débute la semaine prochaine ou dans quelques semaines, C'est 5 mois d'entraînement militaire. Et je lisais même dans les journaux cette semaine que ceux qui ont fait leur service militaire et qui ont plus que tant d'années de service peuvent garder leur fusil. Et ceux de 90. Parce qu'avant, c'était ceux de 57. Il était temps qu'ils modernisent un peu l'artillerie, hein? l'armement. Et donc, ils peuvent garder leur fusil. Donc, équipés pour le combat de toutes les armes de guerre. Combien il y en a ici, vous avez fait votre service militaire? Comme tout bon Suisse, hein? Vous avez fait votre service militaire. Qu'est-ce qu'on vous a fait? On vous a enrôlé, et après ça, on a dit, « Tiens, voilà tes armes, débrouille-toi. » Non? C'est pas de même, ça marche? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vous équipent, et après? Et après, ils vous apprennent à combattre. Ils vous enseignent comment manier les armes. À quoi ça sert, l'arme? Hein? Pas pour tirer sur le voisin. Pas sur le gars qui a un même uniforme que toi. Non, ils t'enseignent tout ça? J'espère qu'ils enseignent ça, parce que moi, s'ils me donnent un fusil, puis ils disent, tu tires tout soldat, le prochain que je vois, je le tire, c'est un des miens. Donc, il faut qu'ils me disent, attends, tu tires un soldat qui n'a pas le même uniforme que toi. Et spirituellement, c'est la même chose. Dans Éphésiens 6, de 10 à 18, vous avez la description de tout l'attirail que Dieu nous a donné pour la guerre spirituelle. Toutes les armes du croyant. Et à 3 reprises dans ce texte d'Éphésiens 6, de 10 à 18, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. » Pourquoi? Afin de tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Quoi? La ceinture de vérité. Revêtez la justice. La cuirasse de justice. Ayez à vos pieds. Chaussures de paix que donne. Les chaussures de zèle que donne l'évangile de paix. Le bouclier de. Pour éteindre quoi? L'être enflammé du malin. Revêtez-vous du. Casque du salut, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et faites des prières. Parce que c'est la prière, l'intercession qui va rendre toutes ces armes efficaces. Et donc, Dieu nous a laissé une armure complète. La différence avec l'armure de Dieu et l'armure du soldat suisse, ou toutes les armes du soldat suisse, commence à l'origine que dans l'armée suisse, tu n'as pas le choix, c'est obligatoire. Dans l'armée du Seigneur, ce sont des volontaires. Des volontaires. Mais, en Suisse, si on ne t'oblige pas, il y a un esprit neutre. Nous, on est neutre. Nous, on ne fera pas la guerre à personne. Pendant que vous irez faire la guerre, laissez-nous votre argent, on va l'administrer. On est pacifique. Il y en a qui sont pas d'accord, mais prenez pas ça personnel. Hein, prenez pas ça personnel. Et je suis pas en train de dire, vous êtes neutre. Mais la Suisse a la réputation d'avoir été neutre. Épargné de 2 guerres mondiales, quand je suis arrivé ce soir, notre frère nous a remis une prophétie qu'il a reçue pour la Suisse, et ce sera à voir avec les autorités de l'Église pour qu'ils puissent la diffuser, parce que c'est vraiment très précis ce qui est donné, et ça touche ces éléments-là où Dieu dit maintenant, attends là, finis d'être neutre, parce que dans le combat spirituel, il n'y a pas de zone démilitarisée. Ça n'existe pas d'être neutre dans le combat spirituel, et il n'y a pas d'anciens combattants. C'est pas parce que tu as combattu déjà quelques fois ou quelques années en arrière que tu es épargné des prochains combats. Donc, Dieu veut nous interpeller à nous équiper pour le combat de toutes les armes de guerre et à être prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. Prêt à livrer bataille. Parce que, bien aimé, il y a une guerre spirituelle qui fait rage. Vous pensez que vous êtes neutre? Oh! Peut-être que vous avez été neutre pour les 2 conflits mondiaux qu'il y a eu, vous avez été épargné des bombes, mais j'aimerais vous parler d'une guerre dans laquelle vous n'êtes pas neutre, et je vois les ravages partout. Plus haut taux de suicide chez les 29 ans et moins. 2 mariages sur 3, c'est de divorce. Allô? Vous fournissez la drogue aux drogués au lieu de les amener à la délivrance. Ça coûte combien à l'État, ça? Regardez le nombre de dépendants de drogue, de gens sur l'héroïne. Je sais, on en a accueilli beaucoup au Bon Samaritain et qui, par la grâce de Dieu, ont pu vivre des victoires. Mais bien-aimés, regardez autour de vous. Regardez autour de vous les horreurs de cette guerre spirituelle qui fait rage et dans laquelle peut-être que vous avez été trop longtemps neutre. Et je vous le dis, de la part de Dieu, je veux éveiller votre intelligence. Je veux, de tout mon cœur, secouer quelque chose en vous qui va dire, même si mes pères ont été neutres, moi, je ne serai pas neutre. Moi, je vais m'engager dans le combat spirituel parce qu'il y a un enjeu important, plus grand que des bâtiments d'un pays, plus grand qu'un territoire géographique, le salut des âmes, les âmes de mes bien-aimés, les âmes, l'âme de ton conjoint, l'âme de tes enfants. Alors que l'ennemi fait rage, alors qu'à cause de cet esprit neutre et convivial et de compromis, parce qu'on veut plaire à tout le monde et on ne veut pas avoir d'opposition avec personne, eh bien, on dilue la vérité de la parole de Dieu, on laisse les choses aller, et l'ennemi, lui, vient pas pour jouer. Il vient, selon la parole de Dieu, pour dérober, détruire, égorger et tuer. Et quand tu regardes autour de toi et tu vois les ravages, quand tu vois les ravages sur tes enfants, quand tu vois les ravages dans ton pays, au niveau du divorce, au niveau du taux de criminalité qui est à la hausse, quand tu vois que la bénédiction de Dieu qui a été si longtemps sur ce pays, qui honorait Dieu dans sa constitution en disant « au nom du Dieu Tout-Puissant », je me rappelle la première fois que je suis venu en Suisse en 1994, un ami qui est toujours un ami merveilleux pour moi, Édouard Gallet, m'avait donné un 5 francs suisses. Et il m'avait montré sur la bande, le contour, c'est marqué « que Dieu pourvoira » sur votre 5 francs suisses. Dieu honore. Vous ne saviez pas ça, hein? Il y a quelques Suisses qui découvrent ça. Vous prendrez une pièce de 5 francs et vous regarderez sur le contour et c'est marqué « Dieu pourvoira ». Mais ce Dieu qui a pourvu pendant tant d'années commence à avoir la moutarde qui monte au nez. Commence à avoir une sainte colère au-dedans de lui parce que si un peuple qui a été héritier de la parole de Dieu, c'est vous. Les Français, ils sont intelligents, eux. Les vrais chrétiens qu'il y avait, ils les ont foutus à la porte et ils les ont envoyés en Suisse. Ils les ont envoyés au Québec, ils les ont envoyés en Hollande, ils les ont envoyés dans les autres pays. Et regardez ce qui est devenu la France, et j'ai un fardeau pour la France. C'est la raison pour laquelle nous sommes établis comme missionnaires en France depuis 7 ans. Parce que ce pays qui est foncièrement antichrist, pas laïque, antichrist, qui est le pays le plus antisémite de toute l'Union européenne, n'est plus sous la bénédiction de Dieu comme il l'a déjà été. Et bien aimé, attendez pas que ça arrive dans votre pays. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu est un Dieu saint. Dieu veut vraiment toucher nos cœurs ce soir et nous sortir d'un certain laxisme et d'un certain conformisme et confort où ça va bien encore. Mais regardez un petit peu plus loin. Faites une comparaison. Moi, je suis venu ici pour la première fois 11 ans passés. J'ai vu des choses s'établir. Je partage avec Yvan et Lucienne, qui sont devenus des amis précieux, chez qui on loge à chaque fois qu'on vient ici, les changements qu'on voit s'opérer. Alors que je disais que partout où j'allais, le seul pays où je voyais encore le nom de Dieu être utilisé était la Suisse. Et quelques années en arrière, 2 ans en arrière, ils ont voulu enlever ça de la Constitution. Heureusement, les chrétiens se sont levés et ils ont dit non. Mais ils vont revenir à la charge. Parce que l'ennemi n'abandonne pas, il est persévérant. Il veut que toute connotation de Dieu, comme ils sont en train de le faire dans l'Union européenne, aucune mention de Dieu dans toute constitution, quelle qu'elle soit, qui concerne l'Union européenne. On ne veut plus de Dieu. C'est l'homme qui est Dieu. Et Dieu ne laissera pas ça aller longtemps. Et c'est la raison pour laquelle il cherche. Il dit dans sa parole, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, le nom de Dieu est invoqué sur vous. » Vous invoquez le nom de Dieu. Eh bien, humiliez-vous, repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies. Et il va guérir votre pays. Il y a un espoir encore. Les choses n'ont pas allé en empirant. Elles peuvent s'améliorer. La Suisse peut être encore, comme elle l'a été pendant des années, une lumière pour le monde, pour les pays environnants. La Suisse peut devenir encore un modèle vers lequel les gens regarderont pour dire « On veut rétablir Dieu à sa place. » Mais pour ça, ça ne se fera pas assis sur nos bancs à jouer à l'église. Ça va se faire alors qu'on va entrer avec une détermination à être prêt à livrer bataille. Une bataille dans laquelle nous sommes engagés, qu'on le veuille ou non, mais nous sommes la seule armée engagée dans une guerre déjà gagnée. Hallelujah! Notre Dieu est vainqueur. Il nous rend plus que vainqueur. Il n'y a pas une situation, pas une épreuve, pas une difficulté devant laquelle tu ne peux pas remporter la victoire au nom de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu es équipé pour le combat de toutes les armes de guerre? Est-ce que tu es prêt à livrer bataille d'un cœur résolu? C'est quoi un cœur résolu? Comme Jacob, quand il a combattu contre l'ange de l'Éternel, et il a dit à l'ange, « Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies béni. » Une telle détermination, j'appelle ça un esprit de pitbull. Quand il prend une mordée, il lâche plus. Il lâche plus. Croûte que croûte jusqu'au bout, comme j'aime dire. Quand tu entreprends quelque chose, tu n'y vas pas avec les... Ouais, ben je vais essayer, puis si c'est trop difficile, je vais relâcher. Non! C'est pas ça un cœur résolu. Un cœur résolu, c'est quelqu'un qui s'engage dans une action et qui a décidé dans son cœur que peu importe les circonstances, peu importe le temps, peu importe les difficultés, qu'il persévérerait jusqu'à la victoire. Amen. Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. Moi, je vais vous dire quelque chose, bien-aimés. Ce que je vous partage ce soir, je vous partage de tout mon cœur. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas venu ici vous faire un beau discours persuasif de la sagesse. Je viens vous livrer mon cœur. Pendant des années, alors que j'étais chrétien, en tant que chrétien engagé dans ma communauté, dans mon église locale, engagé avec les hommes d'affaires du plein évangile, quelqu'un d'engagé, mais je négligeais ma famille. Je n'assumais pas mon rôle de souverain sacrificateur, de chef spirituel, de sentinelle autour de ma maison. Comme notre frère nous a dit ce soir dans un des chants, hein, où c'est plutôt Daniel, il lisait le texte d'Ézéchiel. Je cherche un homme. Et Dieu cherchait un homme pour veiller au-dessus de ma maison, puis il ne me trouvait pas. J'étais occupé partout. Je n'avais pas saisi l'importance du combat spirituel. Je n'avais pas saisi la réalité de mon rôle de sentinelle autour de ma maison. Et le diable, parce qu'il n'y avait personne qui veillait sur ma maison, a pu entrer. Et il a commencé par faire éclater notre couple, alors qu'en 94, on a vécu une séparation qui nous emmenait à ça du divorce. Après ça, il s'est servi de cette situation pour amener mes enfants à quitter l'Assemblée et à retourner dans les choses du monde. Mais à travers cette épreuve, j'ai appris la guerre, comme jamais je l'avais appris, parce que l'enjeu était important. Oh, quand ça touche les autres, ça peut t'affecter, on est des gens de compassion. Mais ça ne t'affectera jamais que quand ça te touche toi, personnellement, dans ton cœur, dans ton couple, dans ta famille. Et là, j'ai crié à Dieu, « Seigneur, viens, je ne veux pas laisser la victoire au diable, alors que ta parole me dit que tu as tout vaincu, tu as tout accompli à la croix. Seigneur, apprends-moi à être le père que je devrais être, apprends-moi à être l'époux que je devrais être, apprends-moi à être ce souverain sacrificateur dont ta parole me dit que je suis, apprends-moi à être une sentinelle, parce que je ne sais pas comment. » Et lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on a cette attitude de cœur, bien-aimé, Dieu vient. Il te prend dans ses bras et il dit, « Je ne te condamne pas. » Jamais Dieu vient condamner. C'est le diable qui vient condamner. C'est l'accusateur. L'accusateur, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'accusateur vient pour convaincre. Et le Saint-Esprit m'a convaincu que je n'avais pas assumé mon rôle, je n'avais pas pris mon rôle comme j'aurais dû le prendre. Et parce que je me suis humilié, parce que je l'ai reconnu, il dit, « Viens maintenant, je vais t'apprendre. » Et il m'a donné ce verset de Zacharie 9:8 qui disait « Je camperai maintenant autour de ma maison pour la protéger contre une armée, contre les allants et contre les venants. Et l'oppresseur ne viendra pas près d'elle, car maintenant mes yeux sont fixés sur ma maison. » Et là, j'ai commencé à me tenir dans la brèche. J'ai commencé à prier pour mon épouse, à la bénir chaque matin, à bénir mes enfants, à me tenir en leur faveur, comme Job, qui se levait tôt le matin et qui venait devant Dieu offrir une offrande pour ses enfants, au cas qu'il aurait péché contre l'Éternel pendant la nuit. J'ai pris mon rôle et j'ai commencé à offrir à Dieu. J'ai commencé à déclarer les promesses de Dieu. Je me suis engagé et j'étais prêt à livrer bataille d'un cœur résolu que le diable n'aurait pas mon couple, que le diable n'aurait pas mes enfants. Parce que ce rachat de mon couple, de mes enfants, a été fait à grand prix. Il a fallu le sang de Jésus qui soit versé à la croix. Et j'ai commencé à prendre ça au sérieux et à commencer à marteler les yeux et à déclarer au diable sa défaite, que c'est moi maintenant qui avais autorité sur lui et qui pouvais avoir mes enfants pour un temps, mais qu'ils n'auraient pas pour longtemps. Parce que la parole de Dieu dit « Je ramènerai tes enfants du pays dans lequel l'ennemi les gardait captifs. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, l'Éternel, je ramènerai le cœur des enfants vers les parents, le cœur des parents vers les enfants. » Ce sont des promesses de Dieu pour nous, bien-aimés. Et j'ai commencé à les croire, j'ai commencé à les déclarer, à me les approprier, et je me suis engagé. J'étais prêt à livrer bataille d'un cœur résolu et de dire à diable, dans ce combat-là, c'est toi qui vas lâcher, pas moi. Amen. Mon couple a été rétabli. Mes enfants sont revenus au Seigneur. Et d'une famille complètement dysfonctionnelle, aujourd'hui, on est une famille de plus en plus unie. De plus en plus unie. Hallelujah! C'était la volonté de Dieu. Et pourquoi ça n'arrivait pas avant? Parce que je n'ai pas pris au sérieux mon rôle. Je ne me suis pas engagé dans cette bataille avec un cœur résolu. Je laissais les choses aller. On ne peut plus laisser les choses aller. On ne peut plus laisser les choses aller. Je veux terminer avec ce verset qui, dans Matthieu 11, 12, où il nous est dit que depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, il est temps qu'on devienne violent contre le véritable adversaire. Qu'on devienne violent dans le monde spirituel pour dire, diable, il y a des promesses de Dieu sur ma vie et ce n'est pas toi qui vas empêcher Dieu de les réaliser. Arrière de moi, Satan, au nom de Jésus. Dans Jacques 4, au verset 7, il est écrit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. C'est quand la dernière fois tu as résisté au diable? C'est quand la dernière fois tu as pris autorité contre l'esprit de dispute dans ta famille, contre l'esprit de division, contre l'esprit du monde qui est entré par la télévision, par toutes sortes de moyens et qui a emmené tes enfants hors des voies de Dieu? C'est quand la dernière fois tu as dit, hey, wow, moi et ma maison nous servirons l'Éternel? Ces choses-là vont. Alléluia. Il est temps qu'on devienne violent. Violent. Mais contre le véritable ennemi. Doux et rusé dans le monde, mais violent contre ce squatteur, ce voleur qui a été dépouillé 2000 ans passés à la croix et qui continue à manipuler les chrétiens en jouant sur leur manque de connaissance. Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En jouant sur le laxisme, en jouant sur la religiosité, continue à faire une œuvre alors que Jésus, dans 1 Jean 3:8, nous a dit qu'il est venu détruire les œuvres du diable. Est-ce que vous croyez que Jésus a détruit les œuvres du diable? Vous faites bien de le croire. Il l'a fait, une fois pour toutes. Comment se fait-il que le diable fasse encore des œuvres? C'est que nous le laissons faire. Nous le laissons faire. C'est nous les véritables autorités sur la planète. Nous faisons fonction d'ambassadeurs de Christ. Pas de n'importe qui. Savez-vous qui est Jésus-Christ? Savez-vous quelle est son autorité, son rang, sa position? Et nous le représentons. Tout le sol que la plante de ton pied foule t'appartient. Tu n'as pas idée de l'autorité qu'il y a en toi. L'endroit où tu es, tu ne sais pas la bénédiction qui est sur ce lieu parce que tu es là. L'entreprise dans laquelle tu travailles, le lycée où tu vas à l'école, la commune dans laquelle tu habites, est bénie, est protégée parce que tu es là. Rappelez-vous Sodome et Gomorre, quand Abraham plaide avec Dieu, si tu y trouves, dis juste, tu vas épargner. Parce que tu es là, il y a quelque chose de la main de Dieu qui est retenu. Mais là, Dieu dit, dépêchez-vous parce que là, la moutarde me monte au nez.
Puis là, je commence à en avoir ras-le-bol de voir mon peuple dans l'état qu'il est et de voir celui que j'ai vaincu 2000 ans passés continuer à faire des œuvres de destruction. Pensez-vous que Dieu est indifférent quand un bébé est avorté? Pensez-vous que Dieu est indifférent quand un jeune se suicide? Pensez-vous que Dieu est complètement pas concerné quand un couple éclate avec les ravages que ça fait chez les enfants? Vous pensez que Dieu n'est pas concerné? Dieu est concerné. Et Dieu est concerné. Et sa parole nous dit que la coupe de sa colère commence à être remplie à ras-bol. Elle commence à être remplie. Pas sur nous, bien-aimés. Nous, on est épargnés de la colère de Dieu. Il y a une colère qui vient sur ce monde. Et on peut leur épargner cette colère-là en les amenant dans le royaume de Dieu. Et pour ça, il faut s'engager dans le combat spirituel. Pourquoi vous pensez qu'on organise des camps comme ça? Parce que ça fait bien de faire un camp? Parce que c'est quelque chose qui donne un titre? Non. Dieu saisit mon cœur avec l'état du peuple de Dieu. Puis il dit, apprends à mon peuple la guerre. Apprends, forme des soldats. Vous savez, le premier verset que Dieu m'a donné pour ses camps militaires, le thème de chacun de nos camps, peu importe le titre qu'on lui donne d'année en année, c'est 2 Timothée 2, versets 3 à 5, où il est écrit, « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. » Bien-aimés, il y a trop de souffrances dans le peuple de Dieu qui sont des souffrances inutiles. Savez-vous pourquoi Dieu nous interpelle à travers Paul dans 2 Timothée 2? De souffrir avec Paul comme un bon soldat de Jésus-Christ, afin de ne plus souffrir inutilement. Que nos souffrances soient des souffrances qui proviennent de notre évangélisation, de notre témoignage, de notre engagement pour la cause de Jésus-Christ, alors qu'on se lève le matin avec un cœur résolu, prêt à livrer bataille pour dépouiller l'enfer et peupler le ciel. C'est ça notre mission. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Et Dieu t'a invité ici ce soir pour que tu entendes quelque chose que je ne savais même pas que je te dirais. Je peux vous le prouver avec mes notes dans ma page et j'en ai même parlé à Yvan aujourd'hui. Le thème que je développais ce soir, je l'ai même confirmé à Daniel quand il m'a demandé ce serait quoi. Et pendant la louange, Dieu dit non. J'ai un peuple ici qui est prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. J'ai des hommes et des femmes qui ne sont pas connus publiquement, mais qui sont connus personnellement de moi, dit Dieu. Amen. Dieu veut dire ce soir, il y en a beaucoup ici. Vous êtes personnellement connus de Dieu, parce que vous avez une intimité avec Dieu. Dieu connaît les cœurs à cœur que vous avez avec lui. Dieu connaît votre désir de voir des choses changer, que vous en avez marre d'entendre les rapports négatifs et les mauvaises nouvelles. Vous voulez entendre des bonnes nouvelles. Vous voulez voir la puissance de Dieu se manifester. On a chanté tout à l'heure à Dieu d'envoyer un réveil. Je m'excuse. C'est pas un réveil qu'on a besoin. Moi, un réveil, je mets ça quand je dors. Si tu dors pas, c'est pas un réveil. On a besoin d'une réforme. De revenir à la parole de Dieu. De croire Dieu. De croire que ce qui est écrit dans sa parole est encore vrai pour aujourd'hui. Et que le nom de Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa parole ne changera pas. Le ciel et la terre vont passer. Regardez ce qui est arrivé avec le tsunami. Il y a des événements qui se produisent un peu partout sur la planète et c'est rien avec ce qui s'en vient. Il dit que le ciel va s'écouler avec fracas, la lune va perdre sa lumière, le soleil, sa chaleur, machin, etc. Il y a plein de choses qui sont données. Le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera pas. Et il est temps que vous et moi, nous devions des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui prenons au sérieux ce que cette parole-là nous dit. Il y a un enjeu, parce qu'il y a un voleur qui vient pour voler, détruire, égorger et tuer, et il ne fait pas de quartier. Il n'y a aucune pitié. Et en plus, il sait que son temps est court. Je termine avec ce dernier verset d'Apocalypse 12:12. Où il est écrit « Malheur à la terre et à ses habitants, car le diable est descendu vers elle, animé d'une ardente colère. » Moi, je ne suis pas un grand mathématicien, mais l'apôtre Jean a reçu cette révélation aux alentours de l'an 70 après Jésus-Christ. Combien y en a, vous êtes d'accord pour dire ici en l'an 70 après Jésus-Christ, il restait peu de temps au diable. Il en reste encore moins en 2005 qu'il en restait. Imaginez-vous l'ardeur de sa colère. Alors que gamin, le diable était représenté comme une bande dessinée. Aujourd'hui, la plus grande stratégie de l'ennemi, c'est d'avoir réussi à faire croire qu'il n'existait pas. Tu ne peux pas combattre un ennemi qui n'existe pas. Tu ne peux pas combattre un ennemi que tu ne crois pas qu'il existe. On va arrêter là. Et je voulais vous livrer ce qui est dans mon cœur ce soir et terminer avec un appel. Un appel. Je veux juste répéter ce verset. Équipé pour le combat de toutes les armes de guerre et prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. C'est toi qui dois t'équiper pour le combat. Les armes sont là. Elles sont à ta disposition. Éphésiens 6, de 10 à 18. Tout est là. Tout est là. En plus, Jésus t'a donné son nom. Il dit, en mon nom, tout ce que vous demanderez au Père, vous sera accordé pour que votre joie soit parfaite. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, l'équipement, toutes les armes de guerre sont à votre disposition. C'est à vous de vous les approprier. C'est à vous d'apprendre comment les manier. Et après, c'est à vous de décider si vous êtes prêt ou non à livrer bataille d'un cœur résolu. Un cœur qui n'accepte pas la défaite parce que la victoire est déjà assurée. Un cœur qui s'engage avec la détermination de dire « croûte que croûte, j'irai jusqu'au bout ». Et diable, tu vas enlever tes mains sur mon couple, tu vas enlever tes mains sur mon conjoint, tu vas enlever tes mains sur mes enfants, tu vas enlever tes mains sur mes finances, tu vas enlever tes mains sur ma santé, tu vas enlever tes mains. Parce que tu as été dépouillé 2000 ans passés à la croix. Et c'est moi aujourd'hui qui ai l'autorité sur toi. Courbons nos têtes. J'inviterai notre frère s'il veut venir doucement au piano, s'il te plaît. Je voudrais ce soir que ce soit un temps où chacun se place devant Dieu. Peut-être, comme notre frère nous l'a dit, tu es arrivé ici, on est samedi, tu as eu une semaine chargée, une journée difficile. On arrive chargé. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Il n'a pas dit comment ça arriverait, mais il a dit que ça arriverait. Et ce que je constate aujourd'hui de plus en plus, c'est que les gens ont tellement d'épreuves, tellement de problèmes, tellement de difficultés, tellement de choses à résoudre, qu'ils n'ont plus le temps d'être tournés vers les autres. Et Dieu te dit, si tu cherches premièrement mon royaume et ma justice, moi je vais te donner tout le reste. Ne t'inquiète pas de quoi tu seras vêtu demain, ni de quoi tu mangeras, ce sont les païens qui s'inquiètent pour l'avenir. Pas toi. Tu es mon enfant, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Les promesses de Dieu sont là pour nous. Mais la différence entre Jésus et le diable qui est un squatter qui défonce les portes, qui est un voleur, qui rentre sans permission, mais Jésus, lui, se tient à la porte puis il frappe. Puis il dit, si tu entends et tu ouvres, je vais entrer. Peut-être que tu es ici ce soir et le nom de Jésus est un nom historique pour toi. Tu dis, Michel, comment tu veux que je m'équipe pour le combat de toutes les armes de guerre puis que je sois prêt à livrer bataille? Je suis en questionnement, je suis en chemin. Jésus n'est pas mon sauveur personnel. Je suis à mes premiers pas. Je suis venu ici parce que je suis en recherche. J'ai entendu parler de Jésus, mais il n'est pas mon sauveur, mon Seigneur personnel. Mais ce soir, je l'ai entendu frapper à la porte de mon cœur. Et je veux ouvrir pour qu'il vienne chez moi. J'ai besoin de Jésus. S'il existe, s'il est vraiment le Fils de Dieu, comme je lui ai demandé 25 ans passés. Si tu existes, si tu es le Fils de Dieu, prends ma vie faisant ce que tu veux. Peut-être que tu es là ce soir et tu es à ce premier pas d'inviter Jésus dans ta vie. Si c'est ton cas, lève ta main là où tu es, dans cette assemblée. C'est un cœur à cœur entre toi et Dieu. C'est un rendez-vous divin entre toi et Dieu. Alors que Dieu te dit ce soir, je me tiens à la porte puis je frappe. Si tu entends et tu ouvres, je vais entrer. On va souper ensemble puis je vais faire ma demeure en toi. Je vais répondre à tes questions. Je vais donner un sens à ta vie. Je vais te révéler ta véritable identité. Je vais guérir ton cœur brisé. Je vais te libérer des liens du passé. Je vais te donner un nouveau départ. Je vais faire de toi une nouvelle créature. Je vais te donner un avenir et de l'espérance. Mais la première condition, c'est que tu m'ouvres ton cœur. Parce que contrairement au diable, moi, je ne force pas. Je défonce pas les portes. Je ne viens pas comme un voleur. Donc, si tu veux ouvrir, lève ta main. Là où tu es, tu as simplement levé ta main. En signe à Dieu pour dire, je veux que tu viennes.